Hashtag RTS OEP.
Et je vous présente sans attendre nos invités qui sont avec nous ce matin pour vous répondre. Anne Reiser, avocate spécialisée en droit de la famille, bonjour.
Bonjour.
On a souvent l'occasion de vous entendre dans notre émission.
Merci.
Et puis Laurence Timmermann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, spécialiste en psychothérapie, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent FSP. Vous êtes thérapeute de couple et de famille également. Alors ensemble, j'aimerais qu'avant d'accueillir les auditeurs au 0800 108 208, on pose un petit peu le cadre, on va dire, légal, et puis le cadre, si on peut le dire, psychologique, autour de ce mot divorce, un mot à la consonance déjà assez dure. Anne Reiser, qu'est-ce qu'un divorce finalement, du point de vue légal? Est-ce que c'est la fin du contrat de mariage ou est-ce que c'est un nouveau contrat, les deux?
Les deux en fait, parce que le divorce ne met fin qu'au lien d'état civil entre les parents, mais ça fait absolument subsister la famille, ça fait en plus subsister l'alliance entre les deux familles. Donc c'est vrai que c'est l'ouverture vers autre chose, et puis et c'est cette autre chose, il n'est pas forcément planifié comme on voudrait dans l'intérêt de tout le monde.
Le divorce, c'est la rupture d'une relation entre les deux personnes et pourtant c'est souvent l'enfant qui fait les frais de cette rupture. Qu'en est-il de ses droits dans le cadre du divorce? Comment est-ce que l'enfant est entendu par la loi?
Il faudrait reformuler. Est-ce que l'enfant est entendu? Parce que c'est le problème, effectivement. On a tout un arsenal juridique qui a pour ambition de protéger l'enfant, mais le problème, c'est que comme on ne s'occupe plus des parents, en fait, en tant que conjoint, en tant qu'adulte, on laisse complètement l'enfant du problème des parents et on a tellement peur de lui faire du mal qu'on a tendance à ne plus l'entendre et à ne plus l'associer à la procédure, ce qui est terrible.
Laurence Timmermann, alors peut-être d'un point de vue plus psychologique, le divorce, c'est quoi pour un enfant? Comment est-ce qu'un enfant perçoit ça?
Alors, tout d'abord, le divorce, c'est une situation évidemment qu'il subit, donc qu'il n'a pas choisi lui-même. Et c'est vrai que c'est un bouleversement dans la vie, puisqu'il y a une rupture des liens familiaux. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une perte des relations au quotidien avec ses deux parents, donc un processus de deuil qui s'entame pour lui et qui engendrera très certainement des sentiments de tristesse, de colère, voire d'impuissance, puisqu'il ne peut rien faire. Dans certains cas, j'ai quand même envie de dire que le divorce peut être aussi un soulagement pour l'enfant si le couple était très conflictuel. En tout cas, c'est ce qu'il espère, retrouver un peu de paix. Et dans d'autres situations où les parents étaient très peu en conflit, parce que ça aussi, ça arrive, que les parents n'ont jamais manifesté quoi que ce soit envers leur enfant, ça peut être un véritable choc pour lui.
Mais comment est-ce qu'on explique le divorce aux enfants?
Alors, donc, dans l'idéal, je pense que annoncer le divorce à ses enfants, c'est préférable de le faire à deux. Et c'est important d'en parler et d'en donner comme une information et d'essayer de ne pas le prendre à partie et d'éviter de tomber dans un règlement de compte.
C'est possible ça?
Alors c'est possible si on veut essayer de le faire, j'imagine. Oui, évidemment c'est difficile puisque les parents sont déjà eux-mêmes dans une situation compliquée. C'est vrai que donc c'est important de leur signaler que le couple c'est la responsabilité des deux parents avant tout, même si c'est l'un qui a pris la décision de quitter l'autre et que un peut se sentir très frustré ou très triste. Maintenant, je pense que c'est aussi important de bien rappeler à l'enfant que si les parents ne s'aiment plus, pour autant, ils continuent à aimer leur enfant et que celui qui part, il ne quitte pas, c'est pas dans la volonté de quitter ses enfants, mais bien de se séparer de son conjoint et que l'amour va durer entre lui et ses enfants.
Ce qui ne doit pas forcément être facile à faire.
Ce qui n'est pas tout à fait facile. Mais ce qui est important, surtout si les enfants sont petits, de bien expliquer cette situation ainsi, parce que l'enfant peut confondre un peu les choses. J'ai envie de dire une chose, c'est que c'est important de bien expliquer à l'enfant qu'il n'est pas du tout responsable de cette situation. Et qu'il ne peut rien y faire, qu'il n'a pas ni le pouvoir de réunir à nouveau ses parents, ni de les avoir séparés.
Anne Reiser, votre avis d'avocate, vous qui côtoyez beaucoup de familles aussi.
Alors, écoutez, moi, j'écoute ça avec. Enfin, je suis tellement d'accord. Le problème, c'est que l'enfant, c'est une éponge. Alors, il y a ce qu'on lui dit, puis il y a ce qu'il sent. Et il voit, en fait, comment les parents vivent la rupture. Et puis, comme la procédure de divorce fait tellement souffrir les parents, qu'il y a un moment où l'enfant est obligé de se rendre compte qu'on lui tient des discours qui sont parfois contradictoires. On dit c'est de la faute de personne, mais enfin, il y en a en général un qui souffre plus que l'autre. Hein. Et puis c'est ça le problème, c'est que comme les parents ne sont pas entendus en tant que dans le ressenti de manière générale dans cette procédure où on entre absolument pas dans ces considérations en justice, et ben évidemment ils sont horriblement frustrés et ils souffrent horriblement. Donc l'enfant en fait est volontiers perdu entre le discours consensuel des parents et puis la réalité qu'il voit quand même. Hein. C'est ça qui est difficile.
Et on va peut-être parler d'un premier thème hein, qui touche de très près l'enfant, c'est la garde dans cette première demi-heure. Et avant d'en parler ensemble aussi, on va même déjà prendre un premier téléphone puisque Frédéric est avec nous depuis le canton d'Argovie. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
Vous vouliez témoigner de votre situation, c'est ça?
Effectivement, en fait, je suis en séparation et il y a une décision qui vient d'être prise par l'Obergericht local. J'ai deux enfants hein, qui ont 2 et 3 ans et qui me donnent un droit de visite seulement deux fois par mois, le samedi de 13 à 18 heures. Et ce, alors que mon premier souhait, c'était la garde partagée. Et je trouve qu'il y a un décalage énorme entre mon souhait et ce qui a été décidé, d'une part. Et indépendamment de mes premiers souhaits, je trouve ça dérisoire, voire humiliant, ou je ne sais pas comment on peut dire, d'avoir si peu de temps avec mes enfants.
J'ai juste une question. Est-ce que vous aviez essayé de vous arranger au préalable avec votre ex-épouse?
Oui, bien sûr, mais le dialogue pendant un certain temps était impossible.
Ok.
On peut l'imaginer. Ben, merci beaucoup en tout cas déjà pour votre témoignage, Frédéric. On va justement se pencher un peu sur ces questions. C'est normal, ça, Anne Reiser, un père ou une mère d'ailleurs, hein, qui veut la garde partagée puis qui se retrouve finalement avec deux fois cinq heures par mois.
Voilà. Eh bien, c'est tout le problème, en fait, de l'interprétation de ce que c'est que un contact régulier avec les enfants. Et puis, on se rend compte que plus on va, en fait, en direction de la Suisse alémanique, plus on trouve normal, finalement, que ce soit la mère qui s'occupe des enfants et que le père les voit très peu. Plus on vient vers la Romandie, plus on trouve normal que ces contacts soient très, très étendus. Et effectivement, on a beaucoup plus de pratiques de garde alternée en Romandie dit qu'en Suisse alémanique, et ça, c'est vraiment des pratiques sociales. Hein.
Mais c'est quoi le minimum? Deux fois cinq heures par mois, ça paraît.
Mais le problème, c'est que il n'est même pas fixé par la loi. Le problème, c'est on se disait, chouette, avec cette nouvelle autorité parentale conjointe, le principe, ce serait de la garde alternée, ou en tout cas, des contacts hyper fréquents, en fait, de l'enfant avec ses deux parents. Et on se rend compte que, comme ça n'a pas été véritablement précisé, on laisse ça, en fait, à la discrétion des juges, et donc de la culture des juges. Et puis voilà, et retour à la case départ. C'est terrible, vraiment. Il n'y a pas d'engagement véritable à faire en sorte que les liens entre l'enfant et ses deux parents ne souffrent pas, ne soient pas rompus, simplement parce que les deux parents ne vivent plus ensemble. Dans l'intérêt de l'enfant, hein, c'est pas de faire l'enfant un petit voyageur entre les deux. Voilà. Non, mais c'est fou.
Mais est-ce que Frédéric peut faire recours maintenant?
Bien sûr qu'il peut faire recours, mais du coup, on lui dira « Ah, il y a un gros conflit entre vous et la mère de l'enfant, c'est pas l'intérêt de l'enfant d'être au milieu de ce conflit, donc on risque de diminuer encore les contacts, alors que le conflit, il l'a avec le système judiciaire.
Hein » Psychologiquement, comment garder un contact? Est-ce qu'on peut garder un contact, une relation saine de père à enfant, Laurence Zimmermann, avec deux fois cinq heures par mois?
Alors, c'est évidemment, ça paraît un peu difficile comme ça de construire une relation dans la mesure où le père va voir très peu son enfant et qu'il est lui-même frustré. Mais bon, moi, je conseille quand même aux personnes d'essayer de maintenir à tout prix cette relation et voire de se battre pour obtenir plus.
Dans le cas de Frédéric, les enfants ont 2 et 3 ans, donc ils sont très petits. À partir de quel âge est-ce que l'enfant peut donner son avis? Est-ce qu'il est pris en compte?
Alors moi, il y a la loi, et puis ce serait intéressant de voir, en fait, vous, ce que vous en pensez. Mais la loi dit qu'effectivement, dès qu'il est capable de discernement, il peut absolument, et il doit, normalement, exprimer son opinion, il devrait être entendu, et puis capable de discernement, la jurisprudence fixe en général à 12 ans, le moment à partir duquel on doit vraiment l'écouter, au point que le tribunal fédéral dit même que si un enfant dit qu'il ne veut plus entretenir des relations personnelles avec le parent qui n'a pas sa garde, finalement, on ne peut pas l'y contraindre à partir de l'âge de 13 ans. C'est dire si il est urgent d'agir en amont.
Donc il peut choisir non seulement alors peut-être le parent avec lequel ou en tout cas donner son avis sur ça, mais aussi sur la durée. L'enfant pourrait dire
si c'est pas assez. Il devient chef de famille. Hein.
Non, mais c'est pas assez, 2 fois 5 heures, je veux voir mon papa plus. Le juge doit prendre en compte.
Il devrait. Le problème, c'est qu'il y a des juges qui rechignent énormément à entendre les enfants, partant du principe qu'ils sont instrumentalisés par les parents. Et c'est souvent le cas, il faut dire aussi. Hein. Je veux dire, la procédure est pour ça. Puisqu'on n'écoute pas les parents en tant que personne, bah, ils sont entendus qu'en tant que parents, donc c'est toujours au nom de leur parentalité qu'ils se font entendre. Résultat, l'enfant, évidemment, il est investi de certains enjeux, c'est normal.
Juste pour être clair, Anne Reiser, ouais. En un mot, finalement, dans un divorce, il y a obligatoirement une décision pour la garde, pour l'enfant. Les parents ne peuvent pas s'arranger entre eux. Quand il y a un divorce,
bien sûr que
il y a
si.
Une décision.
Mais non, mais tous les arrangements sont préférables à un jugement. Le juge, il n'a pas vécu avec eux. Il ne sait pas ce qui fonctionne. Il prend ce qu'on lui donne. Hein. Mais rien, je veux dire, c'est tellement mieux si on se met d'accord.
Mais il y a forcément une décision, par contre. Celle-là, elle est entérinée par le juge. On ne peut pas dire oui, mais on s'entend bien, on va s'arranger par la suite.
Non, c'est obligatoire, en fait, de régler la prise en charge et sur le plan physique et sur le plan financier de l'enfant. Et le juge doit vérifier que ces accords-là respectent l'intérêt de l'enfant.
Finalement, avec le fait que l'enfant soit entendu, puis qu'il est au milieu de tout ça, puis qu'on recherche son bien, il ne devrait pas avoir son propre avocat, l'enfant, finalement, hors du giron des parents, finalement, dans le système
juridique.
Alors,
effectivement, le code de procédure civile et puis le code civil disent aussi ça. Hein. Effectivement, lorsqu'il y a un conflit d'intérêts ou lorsque les parents prennent des conclusions différentes, demandent les deux, par exemple, la garde de l'enfant, le juge a l'obligation de nommer un curateur à l'enfant et la jurisprudence dit en plus que l'enfant peut se choisir son propre mandataire dès qu'il est capable de discernement et ça devrait être respecté par la justice. Donc ça veut dire que
ça existe
peut être...
des cas réels de ça.
Absolument, moi je l'ai vécu effectivement et l'enfant est parti à la procédure qui le concerne. On est 3.
C'est peut-être une bonne solution. On va prendre un nouveau téléphone avec nous, Josette de Marin. Bonjour Josette.
Bonjour monsieur.
Vous vouliez témoigner?
Oui, parce que ça me tracasse depuis très longtemps, cette chose.
Dites-nous.
Alors, moi, j'ai eu un divorce, bien sûr. Et puis, donc, sur la convention du divorce, c'était marqué que mon ex-mari devait prendre ses filles une fois tous les 15 jours, donc le week-end. Et il n'a jamais pris ses filles un week-end.
Et oui, évidemment, ça, c'était pas pour vous plaire non plus. Vous auriez souhaité justement qu'il puisse garder ce lien aussi avec vos filles.
Eh bien, il l'a toujours gardé s'il le voulait, mais j'ai bien vu qu'il n'aimait pas ses filles. Parce que s'il aimait ses filles, il serait pas non plus parti à l'étranger.
Merci pour ce témoignage, Josette. On imagine aussi la difficulté de la situation. Donc, merci beaucoup de nous avoir fait part de ce témoignage. Frédéric Vollery.
Laurence Timmerman. La rupture du lien total, ça va avoir quel impact sur l'enfant ?
Vous voulez dire donc la rupture entre les parents et entre un parent et les enfants ?
Voilà, un parent et les enfants, un parent qui se retire complètement et qui renonce même à son droit de visite.
Alors évidemment, ça peut engendrer des sentiments d'abandon, enfin l'impression qu'il n'a pas de valeur et c'est difficile pour lui de comprendre. Et voilà, donc c'est dommage parce que c'est vrai qu'un père et une mère sont tous les deux importants pour la constitution, pour son développement, pour la constitution de son identité. Donc c'est important de tout faire pour que les deux parents restent en contact avec l'enfant.
Et puis quand il y a justement une décision comme ça de droit de visite, on va peut-être faire une différence entre la garde est accordée à celui qui garde l'enfant, puis le droit de visite c'est l'autre finalement.
Oui, c'est le droit d'avoir des contacts en fait avec l'enfant dont on n'a pas la garde prépondérante. Et puis, alors que la jurisprudence dit que c'est un droit devoir d'entretenir des relations familiales avec son enfant, en réalité, il n'y a pas d'exécution forcée. On ne va pas aller chercher le parent qui n'en a pas la garde avec des menottes. Et de la même manière,
il serait censé le faire. C'est son devoir. C'est pas seulement un droit.
Mais le problème, voilà, hein, on a tous beaucoup de devoirs, mais et parfois des contraintes.
Je vous propose qu'on rajoute une composante supplémentaire à la garde, le fait qu'un des parents soit à l'étranger. Alain s'exprime sur notre guichet, donc on vous rappelle, hein, rts.ch/guichet pour nous joindre. Alors, un couple suisse vit en Allemagne, ils ont deux petites filles. Elle est mère au foyer et donne quelques cours à domicile pour son argent de poche. En cas de divorce possible, elle a entendu que le cas serait traité selon la loi allemande, celle-ci attribuant automatiquement la garde des enfants aux membres du couple qui fournit le revenu. Est-il exact que le divorce ne peut se faire ni en Suisse, ni avec les lois suisses ?
Pas une question facile.
Il y a deux questions différentes là-dedans. Ouais. Non. Il y a la question du divorce et il y a la question des effets accessoires du divorce. Les deux ont leur résidence principale en Allemagne et ça c'est le critère de compétence pour le juge allemand, effectivement, en vertu des conventions de la Haye qui sont applicables. Donc c'est vrai que c'est à l'examen de la situation au lieu de résidence de l'enfant, résidence habituelle de l'enfant, qu'on va prendre ce genre de décision. Ça, effectivement. Maintenant, s'agissant du divorce, c'est autre chose. Il est possible qu'il y ait des pays, mais l'Allemagne n'en fait pas partie, dans lesquels obtenir un divorce est extraordinairement difficile, auquel cas la loi suisse dit qu'on peut plaider à son lieu d'origine. Mais on n'est pas dans cette situation-là.
Est-ce qu'il y a des pays avec lesquels c'est beaucoup plus difficile de faire appliquer la loi ou la jurisprudence qui a été décidée en Suisse dans le cas du divorce ? Par exemple, le divorce a été prononcé ici, un des parents est à l'étranger, et puis au niveau de la garde, c'est difficile de faire appliquer les choses.
C'est le problème du chauvinisme, hein. Il y en a point comme nous. Non mais c'est vrai, on le voit même en Europe. Hein. En Europe, on a eu des décisions en Allemagne et en Espagne qui sont contradictoires. Chacune dit l'enfant devrait revenir dans le pays et puis ces décisions ne sont pas exécutées. Et c'est très difficile, en fait. Le véritable problème, c'est que les juges doivent se faire confiance et dire oui, bien sûr, si je laisse l'enfant partir dans l'autre pays, son intérêt supérieur va être respecté. Il y a des situations dramatiques, véritablement. Je le sais, par exemple, entre l'Irlande et la Pologne, c'est monstrueux. Les juges irlandais n'ont pas du tout envie, dans certaines situations, de laisser les enfants repartir parce qu'ils savent que ça ne va pas se passer très bien pour eux, ou en tout cas moins bien qu'en Irlande.
Ça peut poser des problèmes. Vous pouvez toujours nous appeler au 0800 108 208. On attend vos questions ou nous écrire sur le guichet, donc rts.ch/guichet. Frédéric l'a fait. Il nous pose aussi une question. Un papa il dit qu'il est papa. Il nous écrit : que peut-on faire si on ne voit plus son enfant, une fille de 16 ans, qui décide de faire des apparitions à la carte, une heure éventuellement quand ça l'arrange. Le jugement de divorce stipule la garde partagée, mais en tout cas, un week-end sur deux et la moitié des vacances. Elle a obtenu son diplôme de fin d'études. Elle est partie pour une année comme fille au père en Suisse alémanique. N'ayant pas vu de contrat ni où elle se trouve, et je continue à payer sa pension alimentaire, quels sont mes droits ? On a là un père qui veut voir son enfant.
Non, et puis, Madame Timmermans, c'est tout pour moi, je suis tellement désolée.
Et puis son enfant, il aimerait voir son enfant, il en a le droit selon le divorce, et puis voilà.
Eh ben ouais, du côté de l'enfant, je vous l'ai dit, hein, il a l'obligation d'entretenir et puis des relations personnelles avec ses deux parents, il leur doit obéissance tant qu'il est mineur, mais le problème, c'est comme cette jurisprudence du tribunal fédéral dit qu'effectivement, on ne peut pas contraindre un enfant à entretenir des relations personnelles avec un parent avec lequel il ne veut plus de contact, le jugement restera lettre morte s'agissant des relations personnelles, mais pas sur le plan financier, ce serait trop simple. En fait, le tribunal fédéral dit, si l'enfant ne veut plus entretenir des contacts avec le parent qui n'a pas la garde, et si c'est en raison des douleurs qu'il a pu ressentir, en raison du divorce de ses parents, eh bien, ça ne supprime pas l'obligation du parent qui doit payer l'entretien de continuer à le faire. C'est dire si, en fait, les pères qui sont évacués le sont assez définitivement. Définitivement, mais sans malheureusement être dispensés du devoir de payer. Peut-être que s'ils étaient dispensés de ce devoir-là, tout à coup nécessité en faisant loi, le lien finalement serait rétabli et on essaierait de s'expliquer.
Mais Laurence Timmermann, c'est pas un peu triste d'en arriver à avoir plus que l'argent qui relie un des parents et son enfant ? Comment est-ce qu'on fait pour attirer à nouveau l'ado vers soi ?
Alors évidemment, c'est difficile s'il n'y a plus du tout de contact entre l'enfant et son parent. Par contre...
Elle vient de temps en temps, visiblement, mais pas suffisamment pour le père qui aimerait l'avoir plus.
Voilà, donc le mieux, c'est d'essayer de discuter, d'évaluer un peu la situation. Est-ce que l'enfant est vraiment en difficulté avec son père, ou est-ce qu'il est un peu, on va dire, on va employer les grands mots, un peu manipulé par l'autre parent qui a essayé, enfin, de le convaincre que le père, en l'occurrence, dans cette situation-là, n'est pas un bon parent, ou qui a essayé de s'allier suffisamment à l'enfant pour qu'il lui reste, pour qu'il lui soit totalement loyal et qu'il soit proche de sa douleur et de son sentiment, enfin, d'être victime de ce parent. Enfin, voilà, comment. Donc, c'est important d'évaluer, de parler avec, d'essayer de, le plus possible de parler avec son adolescent, dans ce cas-là, avec son enfant, sans non plus l'attaquer, enfin, le moins possible.
Oui, c'est déjà pas facile en temps normal, hein. Donc, on l'imagine.
Anne Reiser, pour terminer un petit peu cette première demi-heure, l'évolution de l'enfant, un divorce peut être prononcé contre l'enfant à 5 ans, on peut l'entendre ou pas à cet âge-là, et puis peut-être qu'à 8 ans, et puis ensuite à 10, puis ensuite à 12, il va changer d'avis peut-être.
Oui.
Est-ce que le divorce ou les conditions peuvent changer à ce moment-là, du coup?
C'est Woody Allen qui disait « La vie, c'est ce qui vous arrive quand vous avez prévu autre chose ». Dans le domaine du divorce, c'est toujours comme ça. Et malheureusement, en fait, on n'a pas d'arsenal. Ce serait tout simple, hein. Il suffirait, en fait, de prévoir que les plans parentaux, et ça, on le trouve dans plein de pays, sont revus automatiquement tous les 2 ans pour qu'ils soient adaptés à la situation de l'enfant qui grandit et pour qu'on puisse, en fait, maintenir des liens qui sont structurants pour lui. Ce serait tout à fait faisable.
Et si l'enfant est majeur, il y a encore une des obligations s'il a passé 18 ans ou c'est fini, c'est lui qui
décide? Il a lui-même des obligations, oui. Bah oui, le code civil dit qu'on se doit aide, soutien, respect. Le problème, c'est que si on n'inculque ni l'aide, ni le devoir d'aide, ni de soutien, ni de respect, allez obtenir l'exécution de ça chez ce jeune adulte.
Merci pour ces premières réponses, Laurence Timmerman, Anne Reiser. Vous restez avec nous, les enfants au cœur du divorce. Posez vos questions à nos experts. Nous sommes à votre écoute au 0800 108 208 et sur rts.ch/guichet ou encore via les réseaux sociaux. On revient juste après les informations. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on parle du divorce ce matin et plus particulièrement de la place des droits et des devoirs pour et envers l'enfant qui se retrouve dans une situation pas toujours facile, voire souvent difficile pour ne pas dire toujours. Frédéric Vollery, on peut déjà retenir 2-3 points de notre première demi-heure de discussion, notamment sur la garde de l'enfant.
Oui, que les décisions de justice sont souvent abruptes pour l'un des deux parents, d'où la nécessité, on a vu avec nos deux intervenantes, de discuter avant que la justice tranche, donc qu'il y ait peut-être médiation avant que la justice tranche, et l'enfant doit être entendu et pris en compte afin notamment qu'il respecte la décision de justice par la suite quand il devient ado, par exemple. Donc il faut qu'il fasse partie du dialogue. Voilà.
Et il a le droit justement de donner son avis. Son avis peut évoluer. Il pourrait même être représenté par un avocat lors d'un divorce très conflictuel. On va encore voir pas mal de choses dans cette deuxième demi-heure. On va essayer d'aborder beaucoup de choses. Vous êtes nombreux à nous appeler au 0800 108 208. On va essayer de vous donner à tous la parole ou de nous écrire sur www.rts.ch/guichet. Nos invités sont toujours là pour vous répondre. Anne Reiser, avocate spécialisée en droit de la famille, et Laurence Timmerman, psychologue spécialiste en psychothérapie, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent, thérapie de couple et de famille également. Alors on va tout de suite prendre un téléphone. Marie-Ève Duvalet est avec nous. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour.
Vous souhaitiez nous poser une question ou nous amener votre témoignage?
Oui, alors moi je souhaitais juste partager mon expérience par rapport à l'autorité parentale conjointe. Donc je suis divorcée là depuis 1 année, séparée depuis 2 ans, et puis je trouvais que pour les enfants, en fait, c'est pas facile à gérer au quotidien, puisque finalement, après le divorce, d'une fois qu'on a passé cette étape-là, il faut quand même toujours faire des concessions, s'entendre et trouver des accords à deux, même qu'on fait plus deux, mais ouais. Par rapport, je trouve beaucoup aux activités des enfants, qui a le droit de choisir, qui impose quoi, jusqu'où on va, enfin tout ça.
Parce que tout ça, vous le décidez encore à deux aujourd'hui, parce que vous avez l'autorité conjointe, c'est ça?
Pour les activités, disons, on écoute beaucoup les enfants, puis on va selon leur choix, mais par exemple, le fait de... quand ils sont un peu démotivés puis qu'ils arrêteraient une activité au milieu de l'année, moi je pars plutôt du principe qu'on commence, on va au moins jusqu'au bout de l'année, et puis de l'autre côté ça tire pas forcément à la même corde, et puis je trouve ça, c'est vraiment un côté qui est pas évident à gérer.
Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage, Marie-Ève. On va parler justement de cette question d'autorité parentale aussi ensemble. Laurence Timmermann, comment est-ce qu'on fait pour gérer quand justement on doit continuer à décider à deux, alors que finalement le but du divorce c'était un peu de plus avoir des choses en commun, exactement, ou l'autre sur le dos.
Voilà, malheureusement, c'est vrai que quand on divorce, on se sépare d'un conjoint avec qui on ne s'entendait plus ou qu'on n'aime plus, mais on reste parents. Et ça, c'est vrai que pour l'enfant, il n'y a pas de divorce. Les parents restent ensemble et doivent se consulter, ce qui est sûrement difficile. Et finalement, c'est vrai que le seul lien qui reste entre ses parents, c'est justement l'enfant. Donc il y a une obligation, dans un registre vraiment psychologique, psycho-affectif pour l'enfant, d'essayer de se mettre d'accord.
Est-ce que l'utilisation d'outils, il y a maintenant un peu des sites internet, même spécialisés pour les parents divorcés, avec des sortes d'agendas partagés, de factures partagées, est-ce que ça, c'est à encourager, ou est-ce que finalement, il faut quand même se voir, prendre son téléphone, se voir physiquement, ou est-ce que ça peut aider des parents dans la relation, des parents divorcés, dont la relation est vraiment conflictuelle, vous les engagez, vous, à trouver des moyens peut-être d'éviter la confrontation ?
Alors non, au contraire, on va encourager les parents à essayer de se parler, voire à faire appel à une aide extérieure si c'est difficile. S'il y a trop de confusion, trop de ressentiment à l'égard de l'autre par rapport à la séparation, je dirais, conjugale, d'essayer de se faire aider pour justement arriver le plus possible à parler avec le parent, l'autre parent de l'enfant, et pour que l'enfant puisse se sentir en sécurité au milieu de ces deux personnes qui constituent ses parents, justement.
Au-delà de la psychologie, je pense que surtout il faut être pragmatique, il faut faire la liste des décisions qu'on prend à deux, les décisions qu'on est d'accord de prendre tout seul et pour lesquelles on doit se consulter ou s'informer, et les décisions qu'on peut prendre tout seul en se fichant la paix. Mais je crois que ça, c'est indispensable. On trouve ça dans n'importe quelle association, vous êtes associé avec quelqu'un, vous l'aimez plus, mais vous êtes toujours associé, qu'est-ce que vous faites? Vous avez l'obligation de vous organiser, et ça, mettre simplement du contenu dans l'autorité, et puis qui décide quand, comment, puis comment est-ce qu'on fait. C'est juste un cadre qu'il faut poser. Puis après, ça permet de faire le travail psychologique s'il est nécessaire.
On sait bien, les enfants aiment bien jouer. Papa a dit non, maman va peut-être dire oui. On doit leur expliquer, leur parler, leur dire non, mais attention, là, nous on essaie de se mettre d'accord et toi, t'es en train de tout foutre en l'air.
Ouais, c'est ça.
Oui, ça fait partie, du processus de l'enfance, de jouer un peu là-dessus. Donc il y a tout intérêt pour les parents à essayer de se mettre d'accord. Tout comme ils le faisaient au moment où ils étaient ensemble, finalement. Ça ne change pas grand-chose.
Voilà, de ce point de vue,
ça n'a pas disparu.
On
continue à prendre des appels. Vous êtes nombreux à nous appeler. On va essayer de tous vous donner la parole. Sophie de Fribourg est avec nous. Bonjour, Sophie.
Bonjour.
Vous vouliez nous exposer votre témoignage ?
Oui. J'essaie de résumer un peu la situation. Je suis en ce moment en procédure pour notre séparation. Moi, je suis suisse, le papa est étranger. Il est parti vivre à l'étranger. Il est actuellement en Amérique du Sud. Mmh. Notre enfant a 3 mois. Le papa est parti quand le bébé avait quelques semaines. On n'avait pas de convention en cas de rupture. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, on n'avait aucun accord pour le cas où on se quitterait. Et quand il a décidé de partir, moi j'ai proposé qu'on aille voir une conseillère conjugale. Il a refusé. Il a préféré. Donc on l'a vu une fois et après il a refusé de continuer. Moi j'ai fait connaître qu'il y avait plusieurs dangers concernant le comportement du papa. C'est d'ailleurs pour ça qu'il me quitte, parce que j'ai dit que j'étais pas d'accord qu'il mette en danger notre enfant. Et donc lui, il a décidé de faire tout seul avec un avocat un projet de convention, et dans lequel il demande de pouvoir avoir l'enfant à l'étranger 100 mois, au minimum 219 jours par année, alors que j'ai la garde et que j'allaite mon enfant.
Combien de jours par année, vous avez dit ?
Au minimum 219 jours par année.
Donc les deux tiers de l'année, 219 jours.
Et moi, j'ai fait connaître à la justice cette situation, et j'ai fait connaître les dangers. Et j'ai fait connaître, entre autres, qu'il a une addiction à la pornographie et qu'il a eu un comportement avec mon enfant que je trouve un comportement anormal, qu'il l'a aussi laissé tomber, qu'il a aussi ses parents qui le poussent à la violence avec l'enfant et qu'il m'a dit qu'il voulait le prendre à l'étranger. Donc j'ai fait connaître tout ça, et puis pour l'instant, la justice ne m'a pas sérieusement entendue, et la juge de paix a écrit dans une décision pour des mesures super provisionnelles que le papa s'était comporté d'une manière adéquate. Et on a voulu m'imposer en fait de donner l'enfant au papa en mon absence, plusieurs heures par jour, sur plusieurs jours, alors que j'allaite mon enfant à la demande. Et n'a pas du tout pris en compte les risques. Et puis, en plus de ça, le père de mon enfant a donné les clés de notre appartement à son avocat. Et il est gynécologue, il est en train de me calomnier auprès de ses collègues, donc maintenant je suis même auprès des hôpitaux où je pourrais aller, je ne sais pas, avec ces calomnies, ou comment je vais être reçue quand je remarque qu'il y a déjà certaines personnes qui ont changé leur attitude par rapport à moi depuis les calomnies très graves qu'il a faites.
Écoutez, merci beaucoup Sophie pour ce témoignage qui est dur, hein, qui montre aussi la complexité de ce genre de situation. On va essayer de vous donner en tout cas des pistes de ce qu'on peut faire. Anne Reiser, déjà des cas comme ça.
Alors c'est tout le problème du principe de précaution ou non. On est dans un état libéral jusqu'à ce que les gens aient commis une infraction. On peut pas leur prêter un délit d'intention. La justice, si elle n'a pas d'éléments concrets qui lui permettent de comprendre qu'il y a une mise en danger, elle ne peut pas trancher. Ça, c'est les limites de la justice. C'est le problème. Mais ce que ça montre en amont aussi, c'est peut-être l'inadéquation du traitement des situations de crise. On n'a pas de cellule de crise pour pouvoir tout de suite régler ce genre de situation, surtout avec un enfant en bas âge, la mère, l'allait. Enfin, c'est juste incroyable qu'il n'y ait pas eu une prise en compte de la possibilité de la dangerosité pour l'enfant. Hein. Mais c'est le problème. C'est qu'en général, on pose le problème au niveau des adultes en se disant, ils doivent se mettre d'accord, ils ont choisi de faire l'enfant ensemble, c'est donc qu'ils se faisaient confiance, ils n'ont qu'à continuer, et puis ce n'est que si quelque chose se passe qu'on va faire quelque chose. Le problème, c'est que si l'enfant est enlevé, il faut savoir qu'il est pays, il est des pays dont les enfants ne reviennent jamais. Vous avez sur le site de l'autorité centrale en matière d'enlèvement en Suisse, le nom de ces pays qui ne collaborent pas pour le retour des enfants. Et c'est vrai que c'est une situation qui est extraordinairement difficile, c'est déjà dur sur le plan local. Mais si en plus il y a de l'internationalité, pour madame, c'est rude. Effectivement, il faut qu'elle fasse tout de suite une demande de retour en demandant l'aide de l'autorité centrale en matière d'enlèvement, et puis qu'elle fasse intervenir le service social international qui est très efficace pour les médiations internationales. C'est le seul moyen.
Où est-ce qu'on peut trouver
sur Google, autorité centrale en matière d'enlèvement, vous avez tous les liens, notamment sur la fondation service social international. Il faut absolument que madame prenne contact avec ces institutions.
Merci pour ces explications. Et merci à Marie pour ce témoignage. On imagine que c'est aussi difficile de venir nous le raconter et de le vivre. On va enchaîner avec un autre téléphone. Johanna de Fribourg est avec nous. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Vous voulez témoigner aussi?
Oui, je voulais témoigner d'une histoire qui a 10 ans. C'est la mienne. J'ai voulu me séparer de mon ex-mari, enfin de mon mari à l'époque. Et puis, au moment où j'ai décidé de le quitter... lui, il était violent pour ses raisons à lui, et il y avait donc au moment du divorce plainte pénale contre lui, et ça, on n'en tient jamais compte dans ce qui est civil, c'est-à-dire dans le divorce. Et puis je me dis, mais quelqu'un qui est violent avec son conjoint, il peut aussi être violent, peut-être différemment, avec ses enfants. Et on peut être violent psychologiquement, on peut influencer, manipuler les gens. Et j'avais 3 enfants qui avaient à l'époque pas tout à fait 13 ans, 16 et 18 ans. Je ne peux pas dire que je ne les ai jamais revus. Je les ai revus 2 fois avec lui. Et puis mon fils aîné ne sait même pas où j'habite. Et ça fait 10 ans. Quand je le croise dans la rue, il me dit bonjour. Quand je croise ma fille, elle ne me dit même pas bonjour. Elle tourne la tête. Il y en a un, heureusement, que je revois. Mais au bout de 10 ans, je ne sais plus quoi faire. Et je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Mais au moment de la séparation, le juge a écouté les enfants et qui, eux, se sont mis de... je suis partie, donc ils sont restés chez eux à la maison, et donc par la force des choses et par leur choix, je suis obligée de les respecter, ils ont voulu rester avec lui. Mais donc j'avais un droit de visite tous les 15 jours, comme c'est très classique. Et ce droit-là n'a jamais été exercé, parce que mon fils aîné passait son bac, et qu'il a dit que de me voir, ça le troublait, ça le dérangeait. Donc, il ne voulait pas me voir jusqu'à ce qu'il ait passé son bac. Et comme le juge estimait qu'il ne fallait pas casser la fratrie, je n'ai vu personne, aucun des enfants.
Et la situation n'a jamais été revue, hein. C'était une seule décision il y a 10 ans, c'est ça ?
Voilà.
Moi, je pense que ce qui serait très intéressant, on compatit madame, hein. Vraiment, ce qui serait intéressant ici, je pense pour les auditeurs, c'est de raconter ce qui est fait aux enfants lorsque on les cloisonne et on les enferme chez un des parents en les manipulant ou en créant des situations dans lesquelles ils sont complètement piégés, parce que ça c'est vraiment une bombe à retardement pour eux, et c'est horrible pour le parent ciblé par l'aliénation parentale, c'est affreux, et vraiment vous avez beaucoup de force madame, et on est vraiment avec vous, et aux enfants je pense qu'il faut raconter ce qu'on leur fait, je pense que c'est vraiment important.
Mais le problème c'est quand on peut n'avoir aucun contact.
Voilà, c'est ça.
On va essayer justement de voir comment on peut faire ça. Johanna, merci beaucoup pour ce témoignage. Et comme le dit Anne Reiser, on compatit avec votre situation. Laurence Timmerman, comment est-ce que on peut gérer? Johanna dit presque, il n'y a plus rien à faire. Il y a peut-être quand même quelque chose à faire encore aujourd'hui. On peut faire des choses. Qu'est-ce qu'elle peut faire?
Alors, du point de vue juridique, ça, je vous laisserai répondre. Oui.
Non, mais là, c'est du point de vue du contact. Elle a envie visiblement aussi d'avoir un contact avec ses enfants.
Oui, donc alors moi je peux que effectivement encourager cette personne à avoir essayé à chercher le contact avec ses enfants, à s'expliquer avec eux, parce que c'est difficile de comprendre un peu toute l'histoire comme ça.
Ils peuvent comprendre aussi, on peut leur raconter aux enfants, on peut leur raconter les choses comme on les ressent en tant qu'adulte. Enfin, ça dépend, j'imagine, de leur âge, mais c'est parfois peut-être compliqué de se positionner en tant que parent. Est-ce qu'on peut donner son désarroi vis-à-vis de ça à l'enfant?
Oui, on peut faire part de son sentiment de tristesse, de dire qu'on a envie de voir l'enfant, qu'il est important pour nous. Maintenant, qu'est-ce qui provoque ça? Enfin, pourquoi des adolescents décident de ne plus avoir de contact? Alors souvent, donc peut-être qu'au départ, effectivement, ils sont tristes, ils sont fâchés, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les enfants, c'est une situation qu'ils subissent, hein, la séparation des parents. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que un des deux parents a blessé lui aussi par le départ de son conjoint, s'est posé en victime et a alimenté cette colère ou ce sentiment de tristesse chez
Maman
les enfants.
Maman nous a abandonné.
Voilà,
il suffit
donc
de
c'est
dire
vrai.
Ça.
Oui, voilà, donc c'est intégrer, ne pas différencier la position de l'adulte, voilà, qui se sépare, enfin des adultes qui se séparent.